Ah bah voilà, les lumières s'éteignent, ah, le générique est lancé, la clope est planquée sous la table, et le stagiaire a enfin trouvé le bouton REC. Alors bienvenue dans Plan Séquence, l'émission cinéma qui sent bon le pop-corn tiède, les cuirs des fauteuils de province, et les débats qui partent en sucette. Alors vous êtes bien sur Radio Ondine, et Plan Séquence c'est maintenant.
C'est quoi faire du cinéma?
Un film de quelqu'un ou une caméra?
Ah, la boulette.
Écoutez, faites très attention.
Plan séquence 98.7 95.2 Radio Ondine.
Et un spectacle continue.
Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
Alors aujourd'hui dans le programme, alors il y a du lourd, il y a du culte, il y a du zombie et il y a du spandex aussi, jeunes gens. Côté sortie de la semaine, on a 28 ans plus tard, Désinfecté toujours pas remboursé par la sécu, Aaron Taylor Johnson qui court comme s'il avait raté son RER, et Jodie Comer qui prouve qu'on peut être une badass, même avec des cernes de l'apocalypse. On ira ensuite sur la route de Papa, sauf qu'ici Papa c'est Redouane Bougueraba, et il a une conduite plus freestyle que Tom Cruise dans Top Gun. Et on fera une petite halte à Avignon, mais pas pour le festival, hein, non, plutôt pour le trio Le Caplin, Wheeler, Salem, qui fout le bordel dans le Vaucluse avec une comédie bien décalée. Mais surtout, surtout, la Cinémathèque, mesdames et messieurs, on claque la cape, on range les batarangs, on dit adieu à Gotham et on tire notre révérence à un mythe revisité, la trilogie Batman de Christopher Nolan. Oui, on finit notre arc Batman. Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Trois films, une légende, un Christian Bale qui a dû faire plus de pompes que Jean-Claude Van Damme en 87. Nolan a tout changé, plus de blagues de Robin, plus de nipples sur le costume, juste de l'ombre, du chaos, du Zimmer en fond sonore et un Joker qui a traumatisé les bar mitzvahs. Bien évidemment, on ne parlera pas de la version Batman, la dernière, parce qu'elle est toujours en cours de production. Donc je vous donnerai mon avis beaucoup plus tard quand on aura fini cet arc-là. On vous décortique tout ça, on rend hommage et promis, on essaie de ne pas chialer à la fin, même si Alfred devant la tombe, là c'est dur. Un dossier spécial sur un certain Marty McFly et sa DeLorean magique. Oui, on va remonter le temps, non, pas pour sauver Nolan de ses monologues, mais pour parler de Retour vers le futur. Et évidemment, notre banger de la semaine, c'est Halo, la série adaptée du jeu vidéo, où ça explose tous les trois plans, où on a Master Chief parle, oui, il parle, les puristes vont hurler. Bref, bouclez vos ceintures, enclenchez le chrono, réglez vos flux temporels, c'est Plan Séquence, l'émission qui voyage dans le temps sans DeLorean, mais avec beaucoup de mauvaise foi. Cette semaine, les salles obscures nous réservent de belles surprises dans les sorties de la semaine.
Les sorties du mercredi.
Sur Radio Ondine, 98.7, 95.2.
Et si on vous disait que 28 ans après la première vague d'infectés, le virus est de retour. Mais cette fois, il a un meilleur agent, un plan comme béton et même Jodie Comer dans ses rangs. Cette semaine, Danny Boyle nous replonge dans l'enfer post-apo avec 28 ans plus tard. Accrochez vos ceintures ou vos masques FFP2 au choix.
Qu'est-ce qui se passe?
Jimmy, reste assis, arrête de parler et ne bouge pas d'ici!
Il est enfin là! Après deux décennies d'attente et une suite qu'on n'osait plus espérer, Danny Boyle replonge dans l'univers cauchemardesque qu'il avait posé en 2002 avec 28 jours plus tard. Le titre est simple, presque fataliste, 28 ans plus tard. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le film n'a rien perdu de sa rage virale. Au contraire, il l'a digéré, distillé et relâché comme un cocktail Molotov émotionnel. Boyle revient à la mise en scène comme on revient d'un long exil, il garde l'ADN brut et sale de son premier opus, mais injecte une énergie visuelle nouvelle, presque élégiaque, notamment grâce à des plans larges dévastés, baignés d'une lumière radioactive. La caméra est plus fluide, parfois contemplative, comme si l'apocalypse elle-même avait eu le temps de se poser, de réfléchir, avant de replonger dans une violence crue et viscérale. Le montage, lui, reste sec, nerveux, efficace et du boil, hein, mais avec l'expérience du temps et des cicatrices. Côté casting, on a le grand Aaron Taylor-Johnson. Il en a fait du chemin depuis Kick-Ass, un survivant hanté par un passé qu'on devine plus lourd qu'un sac de rations militaires. Il est excellent, taiseux mais expressif, parfait dans ses entre-deux entre héros d'action et homme brisé. Jodie Comer, elle, confirme qu'elle peut tout jouer. Elle a à la fois la boussole émotionnelle du film et son moteur dramatique. Quant au jeune Alfie Williams, qui est révélé dans ce film, il apporte son regard neuf, mi-fasciné, mi-terrifié, qui redonne une forme d'humanité à cet enfer post-pandémique. Mais ce qui frappe le plus, c'est que 28 ans plus tard ne se contente pas de recycler les recettes du genre. Oui, il y a des infectés, oui, ça court vite, ça hurle, ça saigne, mais au fond, le vrai sujet, c'est la mémoire, celle des survivants, des générations post-catastrophe, des sociétés qui n'ont jamais guéri. Boyle nous interroge. Qu'est-ce qu'on fait de nos ruines ? Est-ce qu'on les oublie ? Est-ce qu'on les reconstruit ? Ou est-ce qu'on les vénère comme des totems d'un monde révolu ? Alors non, 28 ans plus tard n'est pas juste un retour nostalgique pour fans de la première heure, c'est une suite audacieuse, politique, sans être lourde, sensorielle, sans être vaine. Un vrai film d'auteur, déguisé en blockbuster infecté, et franchement, ça fait du bien à voir absolument si vous avez le cœur bien accroché. Alors là, oubliez Mad Max et ses autoroutes ravagées, cette semaine on embarque pour un road trip bien de chez nous, version merguez, souvenirs d'enfance et règlements de compte familiaux. Redouane Bouguerraba prend le volant dans Sur la route de papa, et croyez-moi, le GPS émotionnel va dans tous les sens.
Maman, c'est quoi toutes ces affaires ?
C'est rien, deux, trois bricoles.
Je crois que cette voiture va tenir le coup jusqu'au bled.
Ça fait 10 ans qu'on a promis à ton père, faut tenir ses promesses.
Ok, on t'accompagne.
Quoi ? Génial!
Par contre, ta femme, elle supportera pas le trajet.
Vous voulez vous débarrasser de moi, c'est ça?
Non!
Non!
Mais, juste une tête! Arrête! Oh. C'est qui?
C'est les cousins de Belgique, je les ai appelés pour faire la route avec nous.
Un coup de main, cousin!
Moi, c'est ça que j'aime bien, on va voyager ensemble, comme quand on était petits.
On y va, c'est bon, c'est bon.
On vient d'arriver!
Arrête!
Je ramène cette voiture au village et je file à Los Angeles.
Ça va, Los Angeles? Un Américain, toi!
Mima, elle monte avec les Belges.
Maman ! Désolé, désolé.
On oublie un sac, une veste. Mais comment on peut oublier sa mère ?
Toro, Toro ! Quand vous étiez petit, on jouait à ce jeu avec tes sœurs.
Je me rappelle, dès que tu vois un taureau, Toro, Toro !
On est serré dans la voiture. C'est pénible, mais on est obligé de se parler. On se retrouve, on se découvre.
Le voyage, tu le fais pour nous, tu le fais pour toi. Tu regardes personne, tu penses qu'à toi, tu profites de rien.
Toi, je t'ai jamais tapé, mais wallah, tu mérites une claque. Ce voyage était très important pour le papa de Kamel. Pas perdre ses racines.
Je t'aime.
C'est ça qu'on essaie de transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants.
Co-réalisé par Nabil Ait Akaoui et Olivier Dacour, oui, l'ex-footballeur devenu producteur engagé, Sur la route de papa nous propose une virée touchante et bordélique entre drame familial et comédie franco-méditerranéenne, sauce piquante. Le pitch est simple, comme une anecdote qu'on raconterait à table. Samir, trentenaire un peu paumé, embarque sa mère et sa sœur dans un van pour rapatrier le corps de leur père au bled. Un dernier voyage qui sent la poussière, les non-dits et les sandwichs triangles à moitié écrasés. Redouane Bouguerraba, qu'on connaît surtout pour son sens de la vanne, impressionne ici dans un registre plus nuancé. Il garde son débit mitraillette et son franc-parler, mais ajoute une vraie tendresse à son personnage. Il joue un fils qui découvre qu'il ne connaissait pas vraiment son père et que ce silence-là, ça peut faire plus de bruit qu'une dispute de famille. Caroline Anglade apporte une belle énergie et Farid Ouachani, la maman, est formidable de dignité, de sarcasme, de chagrin contenu. Le film évite habilement le piège de la carte postale communautaire, pas de folklore forcé, pas de misérabilisme, juste des gens, des douleurs et des souvenirs, des blagues et des galères d'Airbnb, en fait, un peu comme tout le monde finalement qui part en vacances. C'est filmé sans chichi, souvent à hauteur de regard, et ça touche là où ça doit. On rit, on s'émeut, on se reconnaît. Sur la route de papa, c'est un film modeste, mais pas mineur, hein. Une comédie humaine sur la transmission, les racines et la difficulté d'aimer ceux qui nous ont blessés sans le vouloir. Un peu comme un bon vieux trajet en famille, ça râle, ça klaxonne, mais au fond, on est ensemble. À voir avec un proche ou un passager qu'on aimerait mieux comprendre. Le Festival d'Avignon, non. Cette fois, c'est pas du théâtre subventionné en collant dans une cour en pierre. C'est une comédie bien d'aujourd'hui avec Baptiste Le Caplain, Alison Wheeler et une galère sentimentale qui sont bon le sud, les regrets et les monologues foireux.
Fanny ?
Mais oui, Stéphane !
Oui, Stéphane, c'est ça.
Attends, tu joues dans le sud ?
Pardon ?
Tu sais que c'est incroyable, c'est ma pièce préférée. Tu joues qui ?
Je joue...
Tu vas pas faire croire que tu joues le site pendant tout Avignon.
C'est parti, 500. Mes parents prendront fort, nous vîmes.
3000.
T'es acteur et tu connais pas le site.
Parce que toi, tu connais tout, peut-être.
Le site, oui, c'est un classique.
Bah alors, Bienvenue chez les Ch'tis aussi, c'est un classique. Et pourtant, tu l'as pas vu, donc ça va, ferme ton cul. Ah, je le sens bien, moi, cet Avignon.
Excusez-moi, je viens de voir le Cid, le spectacle était incroyable.
Corneille.
Ouais, bah d'ailleurs j'ai acheté le bouquin.
Tant mieux, super.
Ah, j'ai le désespoir.
Hey, ça va et toi? En tout cas, je suis d'accord avec toi, faut vraiment serrer l'acte 3.
De quoi, pardon?
Ouais, enfin, ouais, tu m'as compris. Allez, à plus.
Attends, depuis le début du festival, tu lui fais croire ça?
Waouh, c'est hyper romantique.
Ah, je sais pas si t'es un génie ou une truffe.
Tu trouves pas que c'est un peu de la merde ce qu'on fait?
Franchement, je me demande si c'est vraiment du théâtre, tu vois, parce que...
Oh putain, mais t'es malade ou quoi? Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend?
J'étais obligé de te faire revenir sur le droit chemin.
Puis si elle t'aime bien, elle s'en foutra dans quoi tu joues.
Allez, salut Thierry, salut les amis, et bravo, ça commence à monter en énergie cette histoire là, on est bien là.
Mais il va venir voir la pièce tous les jours, lui, ou quoi?
Avignon, c'est l'histoire de Thomas, comédien raté en reconversion foireuse, qui retourne dans la ville de ses débuts pour se retrouver, hein. Comprendre pourquoi son ex a largué, et accessoirement pour essayer de remonter sur scène sans tomber de haut. Mais spoiler, le théâtre, comme la vie, ne lui a pas vraiment gardé sa place. Joan Dionnet signe une comédie douce amère où la drôlerie naît autant que des dialogues ciselés que du malaise ambiant. Un peu dans l'esprit d'un clapiche période d'un air de famille, mais avec une vibe plus pop, plus milléniale, presque un français du sud inside, Lowin Davis, sauf qu'ici le chat noir c'est Thomas lui-même. Baptiste Le Caplain est parfait en loser magnifique. Toujours au bord de la crise de larmes ou du fou rire nerveux, il capte à merveille cette génération de trentenaires flingués par leur rêve d'ado. Alison Wheeler, quant à elle, en ex un peu trop brillante, jongle entre froideur blessée et tendresse résiduelle. Quant à Lies Salem, il apporte une chaleur, une sagesse comique bienvenue en mentor improbable et proprio de théâtre associatif à moitié en faillite. Le film joue avec les clichés du milieu culturel, des bobos intermittents et de l'ego d'artiste, mais sans jamais les juger, hein. Il en rit, il en pleure, puis il en fait une scène et à travers ça, Avignon parle surtout de nos tentatives désespérées de réparer ce qui nous échappe, une relation, une vocation, une identité. Ce n'est pas la comédie la plus brillante de l'année, mais c'est peut-être la plus sincère et franchement, ça fait du bien d'en rire sans se moquer. À voir si vous avez déjà remis en question votre vie en regardant une vitrine de boulangerie. On démarre notre playlist d'aujourd'hui avec Louise Hawa et son titre Toujours. On se retrouve juste après. À toutes.
C'est vrai, parfois je me compare trop aux autres. Je dis parfois, mais c'est tout le temps. Ado, je veux attendre le bon moment. En trop, je crois toujours que c'est trop tôt. Je crois toujours les fausses promesses. À demi-mot, je tiens en main ma propre laisse. Mon propre fardeau, une soirée remplie d'allégresse. Le verre de trop, mais je plie sous tes caresses. Sur ma peau, dis-moi pourquoi je reviens toujours. Toujours, toujours, toujours. Dis-moi pourquoi j'y reviens toujours. J'avoue, j'y reviens tout le temps. Le goût du risque est trop tentant. Imbibé, j'oublie le regard des gens. Je noie l'inhibition dans mes tourments. J'enchaîne toujours les maladresses. À mots entiers, j'ai peur que les gens me blessent. Donc je le fais où il faudrait que je me confesse. Dire la vérité, championne en petitesse. Dis-moi pourquoi j'y reviens toujours, 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 toujours. Dis-moi pourquoi j'y reviens toujours, toujours.
La Cinémathèque sur Radio Ondine.
Formidable, c'est formidable.
Et oui, on clôture l'arc Batman avec la trilogie de Christopher Nolan. Depuis les années 40, Batman traîne sa cape entre les cases, les écrans et les ombres. Il a été gothique avec Burton, fluorescent avec Schumacher, ultra pop dans la série des années 60. Mais en 2005, une mue opère, fini les onomatopées colorées. Place au traumatisme, à la peur, à la chair. Christopher Nolan décide de ne pas filmer un héros mais un homme. Pas un justicier mais un symbole, une idée. Pendant trois films, il va construire une trilogie hors norme, à la fois saga d'action et tragédie morale, blockbuster et essai politique, une œuvre qui a redéfini le genre super-héroïque et marqué toute une génération et j'en fais partie. Il est donc logique de finir notre arc Batman par cette trilogie. On démarre par Batman Begins 2005. Tout commence dans la peur, celle d'un enfant tombé dans un puits cerné de chauves-souris. Mais Nolan refuse l'origine story cliché. Il décompose, fragmente, reconstruit Bruce Wayne à partir de ses fêlures. Formé par Ra's al Ghul et la Ligue des Ombres, Bruce revient à Gotham non pour se venger mais pour incarner la peur. Le film est un drame psychologique sous couverture de film d'action. Gotham est réaliste, sale, rongé par les névroses systémiques. Nolan filme la ville comme un personnage malade qu'il faut sauver de l'intérieur. Christian Bale impose un Bruce Wayne hanté, rigide, tourmenté. Il y a quelque chose de presque christique dans sa démarche. Il tombe, il renaît. Le masque n'est pas une protection, c'est une mission. Scarecrow, joué par le grand Cillian Murphy, et Ra's al Ghul par Liam Neeson, ne sont pas des super méchants, sont des catalyseurs d'idéologie. Peur contre volonté, destruction contre rédemption. Batman Begins n'a pas la flamboyance de ses suites, mais il en est la fondation éthique. Il introduit les grandes idées, le masque, l'illusion, le sacrifice. Et cette phrase clé, c'est ce que tu fais qui te définit. On poursuit avec The Dark Knight. Dark Knight. Le deuxième volet est souvent considéré comme le sommet de la trilogie, voire comme le meilleur film de super-héros jamais réalisé. Et pour cause, The Dark Knight transcende son genre pour devenir un véritable polar moral. Il s'ouvre sur un braquage à la Hit avec des plans d'IMAX saisissants et s'étend dans une ville prise en otage par une idée folle. Le chaos comme purification. Heath Ledger, méconnaissable, incarne un Joker nihiliste, imprévisible, quasi démoniaque. Ce Joker ne cherche pas à tuer Batman, il veut détruire sa foi, le corrompre et ça marche. Enfin, presque. Le film oppose trois figures. Batman, le justicier, le Joker, l'anarchiste, et Harvey Dent, le héros lumineux. Mais Nolan dynamite les rôles. Dent tombe, Batman ment, le Joker survit. Tous les films questionnent la légitimité des actes face à l'urgence morale. Jusqu'où peut-on aller pour protéger une société? Peut-on mentir pour la sauver? Peut-on en devenir un monstre par devoir? La mise en scène est tendue, millimétrée, presque oppressante. La musique de Hans Zimmer est une tension constante, un élastique qui ne casse jamais. Et le final, bouleversant. Ose l'inversion. Batman accepte d'être haï. Il devient l'ennemi pour que l'espoir survive. Le héros se sacrifie à l'image du héros. C'est du pur Nolan. Le vrai héros est celui qui renonce à la reconnaissance. Et on termine par le troisième volet de Dark Knight Rises 2012. 8 ans ont passé. Bruce Wayne est un fantôme. Gotham vit dans la paix, mais une paix fondée sur un mensonge. The Dark Knight Rises est une œuvre étrange, plus opératique, parfois bancale, mais éminemment ambitieuse. Nolan veut conclure, refermer le cercle, amener la légende à sa fin. Pour cela, il fait surgir Bane, une force brute, un stratège révolutionnaire qui veut détruire Gotham par la subversion. Tom Hardy compose un personnage massif, impénétrable, au verbe étrangement shakespearien. Il brise Batman, physiquement et moralement. Le film devient un parcours de résurrection. Dans une prison souterraine, Bruce doit retrouver la foi, non en lui, mais en l'autre. Il remonte littéralement, une ascension sans corde, sans filet. C'est une parabole, hein. C'est plus un film de super-héros, c'est une allégorie christique. Les thèmes se répondent. peur, douleur, mort, renaissance, Gotham devient une arène de révolte sociale, une cité en quasi-anarchie. Selina Kyle, jouée par Anne Hathaway, incarne l'ambiguïté morale, l'opportunisme mélangé à la foi de la justice. Le final, même discuté, est une élévation. Bruce Wayne s'efface, Batman meurt aux yeux du monde, mais un symbole vit et un orphelin trouve la Batcave. Conclusion, Nolan n'a pas réalisé une trilogie de super-héros, il a raconté un cycle, la peur, le chaos, la reconstruction, une odyssée morale où chaque choix a un poids, chaque coup a un sens. Et c'est véritablement lui, en tout cas pour le moment, qui clôt l'arc global finalement de tous les films Batman, de la totalité de Batman. Si vous regardez bien, chaque époque est le reflet de sa version de Batman. À chaque fois, c'est pas qu'une vision du réalisateur, c'est une vision sociétale de l'état d'esprit actuel des choses. Et c'est majoritairement tous les films de super-héros qui font ça. Vous pouvez regarder les Avengers qui parlent finalement sur les derniers, hein, Infinity War et Endgame, sur la résultance de la surconsommation, de la surpopulation, du non-respect de la nature, etc. Et ça apporte, en fait, ce genre de film apporte des axes de réflexion si on a l'esprit assez ouvert pour avoir une lecture secondaire de ces films-là. Parce que ça reste des reflets sociétaux, comme dans les comics, les bandes dessinées. Chaque époque, c'est une problématique particulière. Chaque méchant génère un questionnement sur la société. Bref. Il a redonné de la chair au masque, il a ramené Batman dans notre monde, et en faisant cela, il a ancré le super-héros dans une réalité où les monstres sont intérieurs, où les héros doutent, chutent, mais se relèvent. Ce Batman ne vole pas, il tombe et il apprend à se relever encore, et encore, et encore, et encore. Et peut-être c'est ça, au fond, la vraie héroïne, la persévérance. Rideau sur Gotham, merci Bruce, merci Nolan. Voilà, c'est la fin de notre arc Batman. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le préparer. On a visité des grottes, croisé des clowns psychotiques, vu des costumes plus ou moins réussis. Hein. Oui, George, je suis désolé, mais on t'a vu. Hein. Et affronté la philosophie de Christopher Nolan à coups de scènes d'action tendues et de punchline existentielle. On espère que vous avez apprécié ce voyage dans la Batcave, qu'on vous a donné envie de revoir ces films et surtout que vous avez trouvé vous aussi votre Alfred intérieur. La semaine prochaine, nouveau thème, nouvelle ambiance, on raccroche la cape pour mieux sortir les pop-corns, même batteur, mais peut-être, mais même sûrement pas le même bas de programme. Je vous fais une petite aparté actualité, messieurs, dames, avis à tous les cinéphiles, les curieux, les nostalgiques de salles obscures et les amateurs de climatisation gratuite. La fête du cinéma revient du dimanche 29 juin au mercredi 2 juillet. Pendant 4 jours, toutes les séances sont à 5€ dans les salles participantes partout en France. C'est le moment rêvé pour voir ce que vous avez manqué, découvrir des pépites ou juste enchaîner 3 films d'affilée comme au bon vieux temps. Des avant-premières, des blockbusters, des films d'auteur, de frissons, du rire, de l'émotion et tout ça pour le prix d'un sandwich triangle en gare. Ouais, le cinéma est devenu un bon plan. Alors notez bien les dates. Bloquez les soirées, envoyez des textos groupés à vos potes et surtout allez au Cinoche. La salle est fraîche, le son est fort et les histoires sont plus grandes que la vie.
Le banger de la semaine. Radio Ondine 98.7 et 95.2.
On l'attendait comme le Messie ou comme une grenade plasma en pleine poire. Halo, la série adaptée du mythique jeu vidéo est enfin là. Enfin, elle est là depuis quelques temps déjà. Sur Paramount Plus, on a les 2 saisons disponibles. Bien sûr, la suite va arriver prochainement. Le budget est colossal, les armures ultra fidèles et on a un Master Chief qui, spoiler alerte, enlève son casque, ouais, et pas qu'une fois. Si vous n'avez jamais foutu un pied dans un vaisseau Covent ou gueulé « grenade » à vos potes sur Xbox, rappel express, Halo, c'est une saga de jeu de tir à la première personne. Lancé en 2001, centré sur un super soldat, le Major John 117, alias Master Chief, dans une guerre galactique contre une alliance religieuse alien, Barjo, appelée les Covenant. C'est surtout un univers riche, avec une IA nommée Cortana, des arcs politico-mystiques, des explosions bleues et un lore aussi vaste qu'un open world de chez Ubisoft. La série Halo, elle, fait le choix de ne pas coller entièrement au jeu. Hein. C'est là que ça divise. On prend le lore, les persos, les flingues, et on borde autour introspection, mémoire perdue, manipulation de l'UNSC, hein, l'armée humaine, flashback sur l'enfance et même des intrigues secondaires inventées pour l'occasion. Résultat, une série mi-blockbuster, mi-métaphysique qui tente de développer une mythologie dense, parfois au détriment du rythme. Mais à niveau production, c'est impressionnant. Vaisseaux, aliens et fixes numériques, on est plus proche de The Mandalorian que d'un fan-film mal éclairé. Hein. Pablo Schreiber, vu dans American Gods, endosse l'armure du Spartan le plus connu du jeu vidéo. Et oui, il tombe la visière assez vite, ce qui en énerve plus d'un. Mais bon, difficile de construire un arc émotionnel quand on joue un mec muet dans un masque, hein, non ? On le découvre donc plus humain, plus vulnérable, parfois même un peu trop pensif pour un mec censé défoncer du Covenant à la chaîne. En parallèle, Cortana, doublée par Jen Taylor, comme dans le jeu, devient un personnage central, mélange de Siri hyper intelligente et d'ange gardien numérique. Alors Halo, banger ou pas banger, on vous le dit, hein, si vous cherchez une adaptation 1 sur 1 du jeu, vous allez probablement lever les yeux au ciel, hein, mais si vous acceptez une relecture sérieuse, parfois un peu bancale mais ambitieuse, avec un vrai parti pris artistique, alors Halo a des trucs à dire. Mention spéciale pour certaines scènes de baston ultra efficaces et une BO qui mélange nappe épique et cœur guerrier, et ça je vous conseille vraiment de l'écouter, c'est magnifique. Et puis il y a une vraie tentative de donner de la profondeur à cet univers, hein. Parfois c'est brillant, parfois c'est un peu what the fuck, mais au moins ça ose, hein. Alors en résumé, la série elle est pour qui ? Elle est pour les fans du jeu et ceux qui aiment les séries SF bien produites. Nous on adore les décors, les FX Cortana et les sons apportés au lore. On tique un peu plus quand même sur le rythme parfois inégal des prises de liberté discutables, mais quand même ça mérite le détour au moins pour se forger son propre avis et parce que bah Master Chief, hein, ça reste un roi quand même, hein, c'est pas n'importe qui. On poursuit en musique bien évidemment avec une petite découverte avec le titre Poisson Verso du duo de sœurs Lo et Vi, et on se retrouve juste après pour le dossier de la semaine, spécial Retour vers le futur, la trilogie qui défie le temps.
On nous demande souvent, est-ce qu'on s'entend vraiment ? On se ressemble différemment. On partage nos souvenirs, mais pas la manière de les vivre. On veut surtout avoir raison. Qu'il a dit, qu'il a entendu, qui dit vrai, qui dit faux. On s'est tout dit sur la liste de nos défauts. On se tourne vers le ciel pour obtenir des réponses. Je te dirai qui tu es, je l'ai lu dans Marie-France. Poisson verso, est-ce que c'est le bon combo? Logique ou pas trop? Poisson verso. Si j'ai des problèmes dans la tête, c'est de la faute aux planètes. Elles étaient peut-être mal alignées, ou je suis pas née la bonne année. Imprévisible parfois, c'est le chaos. Un moins susceptible, silence radio. On se tourne vers le ciel pour obtenir des réponses. Je te dirai qui tu es, je l'ai lu dans Marie-France. Poisson verso, est-ce que c'est le bon combo? Question astro, logique ou pas trop? Souvent, est-ce qu'on s'entend vraiment? On se ressemble différemment.
Le top de la semaine.
What a day, what a day.
comme dirait Doc à Marty, là où on va, on n'a pas besoin de présentation. Parlons d'une trilogie, ouais je suis désolé pour la blague, parlons d'une trilogie qui a plié le temps, les genres et les neurones. Retour vers le futur, trois films, une DeLorean, un Doc folle dingue, un ado avec un gilet rouge et des paradoxes temporels à vous faire exploser le cerveau plus vite qu'un convecteur spatio-temporel en surchauffe. Créée par Robert Zemeckis et produite par Steven Spielberg, la trilogie Back to the Future, donc les trois films 85, 89 et 90, est plus qu'un monument du cinéma, c'est une anomalie temporelle qui continue d'irriguer la pop culture comme un réacteur nucléaire à base de Pepsi et d'Overboard.
Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale.
Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley.
Vous savez, l'histoire, elle va changer.
Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça.
Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean ?
Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé.
Ça marche !
C'est une soucoupe volante venue de l'espace !
Maintenant, il est bloqué dans le passé.
Je dois arriver, c'est pas possible.
Il fait la connaissance de son futur père.
Mais c'est un voyeur.
Wow.
Et il plaît beaucoup à sa mère.
Il est absolument censé
dormir dans ma chambre.
Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur.
Il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre.
Bon sang, Doc, je suis même pas né.
Et il n'y a que Doc Brown qui puisse l'aider à retourner vers le futur. Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Retour vers le futur.
Donc en fait, le premier arrêt, c'est 85. Puis 55, puis re 85, hein, le pitch Marty McFly, donc joué par l'excellent Michael J. Fox, ado coolos et guitariste amateur, se retrouve catapulté 30 ans dans le passé grâce à une DeLorean bricolée par son ami Doc Brown. Christopher Lloyd, plus électrique que jamais. Sauf que Marty empêche accidentellement ses parents de tomber amoureux, menaçant sa propre existence, le tout saupoudré d'humour, d'invention visuelle géniale et de paradoxe temporel sauce popcorn. L'anecdote un peu croustillante du film, à l'origine, Marty devait voyager dans un frigo. Mais Spielberg, post Les Aventuriers de l'Arche Perdue, craignait que des enfants tentent de reproduire la cascade. La DeLorean a donc gagné sa place au panthéon des bagnoles cultes aux côtés de Kit ou de la Batmobile. En plus, il y a la scène culte musicale. Marty qui grimpe sur scène au bal du lycée et lâche un solo de guitare sur Johnny B. Goode de Chuck Berry avant de partir en vrille façon Van Halen sous acide. Petit clin d'œil temporel délicieux, Marvin Berry, le cousin fictif de Chuck, appelle ce dernier pour lui faire écouter ce nouveau son. Chuck, c'est Marvin, Marvin Berry, tu sais, ce nouveau son que tu cherchais, écoute ça. Voilà comment un solo de rock des années 80 devient l'étincelle du rock'n'roll dans les années 50, brillant et absurde et donc parfait. Et d'ailleurs, je vous laisse écouter d'ailleurs un petit peu de Johnny B. Goode de Chuck Berry.
Learn
mother told him someday you will be a man, and you will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around to hear you play your music when the sun go down. Maybe someday your name will be in lights and Johnny B.
Maintenant, direction le futur, ou plutôt un futur tel qu'on l'imaginait en 1989. Bienvenue en 2015, l'année des baskets autolassantes, des pizzas hydratées et des overboards.
Où ça ?
Et vers le futur !
On est de retour ?
On est de retour.
Vous voulez dire qu'on est dans le futur ?
Nous sommes au mois d'octobre 2015 !
Marty, on va pouvoir assister à notre mariage !
Waouh !
Le futur, c'est pas croyable. Regarde ce qui arrive à ton fils !
C'est une vraie poule mouillée.
N'adresse la parole à personne. Mon fiat !
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Ne touche à rien.
Tu me prêtes ton...
Overboard ? Ah ! Essaie de ne pas regarder autour de toi. Je n'ai pas inventé la machine à voyager dans le temps pour gagner au jeu.
Avec ça, je peux pas en perdre.
Je l'ai inventé pour voyager dans le temps.
Doc, je vous dis pas le contraire, mais ça mettra un peu de beurre dans les épinards.
Une rupture du continuum espace-temps a produit un 1985 différent de celui où nous sommes.
J'ai vraiment l'impression d'être en enfer.
Non, l'état il valait, bien que je ne vois pas comment l'enfer pourrait être pire.
Allez ça dans le grand 6, tocard !
Biff ?
Allô ?
Hey !
Y a quelqu'un au bout du fil ?
Maman ? C'est pas possible, tu as tellement... grossi ?
Nom de Dieu !
Ouais, c'est super, maman. On sent pas comme si on avait 15 ans, tu vois.
Maman, c'est toi.
Zemeckis enchaîne les timelines comme des sliders dans un dîner. Marty et Doc doivent empêcher le fils de Marty de faire une grosse boulette, mais finissent par créer une ligne temporelle où Biff Tannen, bully de lycée devenu mania tyrannique, règne sur un Hill Valley dystopique. Et là, on se rend compte que ce film était visionnaire, vraiment très, voire peut-être trop visionnaire. Oui, parce que Biff, bah, je vous laisserai votre avis, mais en fait, Biff, c'est Donald Trump. Pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, c'est copier-coller sur le Donald Trump de l'époque des années fin 80, début 90 quoi. L'impact visuel est dingue. La ville volante, les écrans géants, les pubs holographiques, tout y est. Même si on attend encore des overboards hein, qui marchent, mais qui marchent vraiment. Hein, pas les faux reels de TikTok. Fun fact, pour les overboards, les enfants ont longtemps cru qu'il existait vraiment. Zemeckis lui-même avait glissé une vanne dans une interview en disant que les fabricants ne voulaient pas les commercialiser à cause de la sécurité. Tollé garanti chez les parents. Et l'influence infinie de Rick et Morty à Stranger Things, en passant par toutes les boutiques de fringues, ayant un jour imprimé un logo Pepsi Perfect, le Retour vers le futur 2 est une machine de référence. Et on termine bien évidemment, et celui-là c'est mon préféré, vraiment vraiment. La majorité des gens adorent le 2 pour son côté futuriste, moi c'est vraiment le 3. Il a une place vraiment très particulière dans mon cœur.
Le Far West.
Nom de Zeus.
Je sais, c'est pas le pied.
Les Indiens.
«
s'est pointé droit sur ta tête.
Venez voir.
Tu appelles ça avoir l'avenir devant soi? Je pars en 1885 et je vous ramène avec moi. Hey, tu nous lâches, espèce de tâche!
Ton nom c'est quoi, pied tendre?
Eastwood. Clint Eastwood.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort, moi, l'œil?
Et qui est cette bien-aimée, Clara?
On m'avait sauvée!
Emmett Brown, pour vous servir. Je vais te traquer et je te tirerai comme un sapin!
C'est lapin! Tirer comme un lapin.
Où est-ce que tu as appris à tirer comme ça?
À Disneyland.
Là, on peut dire qu'il tient pas à l'alcool.
Je n'avais jamais, jamais rencontré un homme comme vous.
Messieurs, mon ami et moi avons un train à attraper. Dépêche-toi de partir! C'est un hold-up. C'est une expérience scientifique. La fête commence.
Après le futur, le passé du passé. Direction 1885. Exit les néons, place au saloon et aux locomotives. Le doc, éperdument amoureux d'une institutrice, Clara, doit décider entre le cœur et la science pendant que Marty affronte un ancêtre très remonté de Biff, Bufford, Bulldog Tannen. Ce volet est plus tendre, plus romantique, parfois un peu en retrait côté rythme, mais il offre une belle conclusion. La DeLorean finit broyée, le doc se barre dans un train à vapeur volant et Marty comprend qu'il peut forger son propre destin. Pas mal pour une saga qui parle d'un ado qui voulait juste jouer de la guitare. Anecdote pour celui-là, pendant une cascade à cheval, Michael J. Fox a brièvement été étranglé par accident. Il a perdu connaissance plusieurs secondes. La scène est dans le film Hollywood, baby. Pour ma conclusion, Retour vers le futur est un miracle de storytelling, un complexe sans être confus, fun sans être idiot, bourré de détails sans jamais noyer le spectateur. Une saga où la moindre réplique peut revenir à un autre moment avec un autre sens. Un scénario en boucle mais jamais répétitif. Hein. Et son impact sur la pop culture, incommensurable. Les Nike Mag, les DeLorean, les références constantes dans les séries, films, pubs, même Ready Player One en a fait un monument sacré. La trilogie est étudiée en école de cinéma, les scénaristes l'adorent, les fans la vénèrent et je suis le premier à avoir monté un hôtel à la gloire de ce film. Non, je déconne, mais je suis pas loin. Zemeckis et Gale ont toujours refusé une suite ou un remake et on les en remercie car, comme le dit Doc, le futur n'est jamais écrit, il sera exactement ce que vous en ferez. Celui-ci, on le laisse tranquille comme une montre qu'on ne remontre plus. Et voilà, c'est la fin de cette séance de plan-séquence. On a parlé zombies, chauves-souris, milliardaires, boucles temporelles et Spartans en armure moulante. Bref, encore une émission plus chargée qu'un multiplex, un mercredi de vacances. Mais comme disait Doc à Marty, le futur n'est jamais écrit d'avance. Alors, écrivez-le avec nous. On vous retrouve en replay sur le site de Radio Ondine, bien évidemment, en podcast sur toutes les plateformes, même celles que votre tonton appelle encore l'Internet. Et évidemment, abonnez-vous à nos réseaux, Instagram, Facebook, etc. Même Batman nous suit, c'est dire, mais ah bon, il like jamais ce radin. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Et maintenant, petit cadeau, grâce à notre partenaire, le cinéma Le Celtic de Saint-Malo-Grand, on vous fait encore gagner 2 places de ciné pour aller voir le film de votre choix. Ouais, même celui avec les mignons, et on jugera pas. Pour participer, il suffit de répondre à 7 questions. Dans quel film, la trilogie Batman de Nolan, le personnage de Bane brise-t-il le dos de Batman? Envoyez votre réponse en DM sur notre Insta ou par Hibou Voyageur, tout en respectant les consignes liées à cette publication, parce qu'elle sera aussi en publication. Et vous pouvez donc effectivement nous envoyer par DM ou par Hibou Voyageur hein, si vous êtes coincé en 1955. On tirera au sort le ou la gagnante dimanche soir juste après le rôti. Merci à tous, prenez soin de vos pop-corns, restez curieux et comme dirait Alfred, même les chauves-souris ont droit au repos. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine pour une nouvelle séance de plan-séquence. Et comme d'hab, on se quitte en musique avec un groupe vraiment qui sont un gros kiff de mon côté. On écoute les grands Dub Silence et leur titre On va le faire. En attendant, continue à voir des films, à en discuter et surtout, n'oubliez pas le pop-corn.
On va le faire, avec ou sans les autres, on va le faire. Laisse-les parler, c'est pas nos affaires, man. Quand on aura réussi, ça va leur faire mal, ça va leur faire mal. On va le faire, ressens la force qui coule dans nos artères. On se relèvera si on finit par terre. On va le faire jusqu'à ce qu'on enferme, jusqu'à ce qu'on enterre. Man, on va le faire, pour tous les naïfs qui croient encore à leurs rêves. Pour tous les bosseurs qui ne prennent jamais de trêve, qui ne font jamais grève, qu'ils vont ou qu'ils grêlent jusqu'à ce qu'ils crèvent. Man, on va le faire. Pour nos familles, nos amis, nos sœurs et nos frères. Pour les gens dans la rue à qui rien n'est offert. Pour les jeunes en colère, en échec scolaire qui quittent le système. Man, on va le faire.
Pour les choquer, pour les faire taire. Pour désarmer nos adversaires.
Man, on va le faire.
On arrose la graine pour la faire germer. On garde les deux pieds sur la terre ferme.
Hey yo, wow. Tout l'amour qu'on a se ressent dans nos textes. Fidèle à nous-mêmes, on ne retourne pas nos vestes. Wow. Contexte, embrassons nos complexes.
Man, on va le faire, avec ou sans les autres, on va le faire. Laissez parler, c'est pas nos affaires, man. Quand on aura réussi, ça va leur faire mal, ça va leur faire mal. On va le faire, ressent la force qui coule dans nos artères. On se relèvera si on finit par terre. On va le faire jusqu'à ce qu'on enferme, jusqu'à ce qu'on enterre. Man, on va le faire.
Toutes les darons en solo qui galèrent, qui font le nécessaire pour assurer un salaire. Pour toutes les caissières, pour ceux qui quittent le pays, qui traversent la mer et qui arrivent jamais.
Pour tous les artistes qui ont réchauffé nos âmes, qui d'une étincelle ont ravivé la flamme, qui m'ont donné des ailes passant du rire aux larmes. Pour la force de Tiken, la sagesse de Naman.
Pour tous les gens seuls,
pour tous les gens bien,
pour toutes les grandes gueules,
pour tous les anciens,
pour les penseurs, défenseurs du lendemain. Pour ceux qui peuvent pas le faire, man, on va le faire.
D'accapter c'est le mantra. Je veux que ça rentre dans ta tête et on dansera. Pour que ne jamais s'arrête la vibration de la fête. En cas d'espoir à transmettre, on le chantera.
On va le faire.
Pour les victimes de ces maris pervers. Justice fictive quand la fame interfère. Pour tous les chic types et pour toutes les guerrières qui ont pas la peau assez claire.
Man, on va le faire. Avec ou sans les autres, on va le faire. Laisse-les parler, c'est pas nos affaires, man. Quand on aura réussi, ça va leur faire mal. Ça va leur faire mal. On va le faire. Ressens la force qui coule dans nos artères. On se relèvera si on finit par terre. On va le faire jusqu'à ce qu'on enferme, jusqu'à ce qu'on enterre. Man, on va le faire.
Si on finit par terre, on va le faire jusqu'à ce qu'on enferme, jusqu'à ce qu'on enterre.